Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Merci Christelle. En déplacement à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France ce mardi, le ministre de la Santé Olivier Véran a invité les Français éligibles à la vaccination à aller se faire vacciner, affirmant que des créneaux étaient encore disponibles. C'est notre question du jour. Faut-il élargir la vaccination ? On est avec Latifa qui est médecin dans le Loiret. Et Latifa, vous dites oui.
Alors, je dis qu'en fait, selon les territoires, il faudrait élargir la vaccination. On prenait l'exemple sur mon territoire, qui est un territoire où la population est très âgée. Donc, nous, on a eu une très, très forte demande au tout début quand on a démarré la vaccination. Mais je pense notamment au vaccinodrome en Seine-Saint-Denis, où la population est bien plus jeune et donc toujours pas vaccinée, puisqu'elle n'est pas encore concernée par la vaccination. Donc, selon les territoires, je pense qu'il faudrait s'adapter et élargir la vaccination. Voilà.
Mais en même temps, aux États-Unis, je disais tout à l'heure, tous les adultes au-dessus de 18 ans peuvent se faire vacciner. Il faut atteindre l'immunité collective. Il y a des créneaux disponibles. Il y en a beaucoup en Île-de-France demain. Il y en a après-demain au Stade de France, etc. Il y a une forme de bon sens, de logique à dire, allez, faut que tout le monde soit vacciné. Et notamment, les gens qui ont le plus d'interactions. Parce que, évidemment, les gens qui ont 60-70 ans, il faut sans doute qu'ils soient vaccinés. Mais ces gens-là voient moins de monde. Or, les jeunes voient beaucoup de monde. Donc, plus il y a d'interactions, plus il y a possibilité de transmettre le virus.
Oui, tout à fait, mais ça a été le débat initial sur la stratégie vaccinale que la France avait adoptée, en se demandant pourquoi est-ce qu'on ne vaccinerait, on commencerait pas par vacciner les actifs, puisqu'ils ont beaucoup d'interactions, plutôt que de vacciner des personnes âgées qui sont souvent isolées ou d'ailleurs dans les EHPAD. Ça, c'était le premier débat sur justement la stratégie vaccinale. Maintenant, et puis c'est surtout qu'en fait, on avait un vrai problème de dose. Donc la stratégie a été de vacciner en priorité les personnes fragiles, isolées, qui eux sont à risque de faire des formes graves. Maintenant qu'on est sur des, on a un peu plus de doses, je pense qu'effectivement on peut se permettre d'élargir et effectivement élargir à tous ces jeunes actifs et surtout aussi de territorialiser cette vaccination en disant que sur un territoire où on a beaucoup de personnes jeunes et actives, et ben effectivement, il faut leur permettre de se faire vacciner. Nous, sur notre territoire, on peut considérer qu'on a vacciné un peu plus de la moitié, puisqu'on est un territoire où la population est très, très, très âgée.
Vous rencontrez évidemment beaucoup de patients dans votre cabinet. Il y a beaucoup de gens qui sont réticents à l'idée de se faire vacciner.
Absolument pas, ça a effectivement changé. Au tout début, effectivement, on est sur les mêmes chiffres que les chiffres nationaux. On avait plus d'un patient sur deux qui était contre la vaccination. On disait souvent que le vaccin avait été fait trop vite, qu'il n'y avait pas de recul, qu'il n'avait pas confiance. Mmh. Et maintenant, c'est le contraire. On est pris d'assaut.
D'accord. Bon, ça c'est une bonne chose.
Tout le monde veut se faire vacciner. Donc c'est vraiment une très très bonne chose.
Vous savez, là vous êtes dans un centre de vaccination. Est-ce que vous savez combien de personnes vous avez vaccinées depuis que vous avez commencé l'opération vaccination?
Alors, je vais le savoir. C'est la question que j'ai posée. Je vais le savoir très prochainement. On peut considérer qu'on a vacciné sur notre centre, pas loin de entre 10 et 15 000 personnes.
Bon, et vous-même, vous savez combien de personnes vous avez vaccinées?
Eh ben, moi, je suis au centre de vaccination à raison de 2 à 3 fois par semaine. Et chaque fois que j'y suis, je vaccine 200 à 250 personnes.
En fait, la question que je voulais vous poser, sur tous les gens que vous avez vaccinés, est-ce qu'il y a eu des effets secondaires? C'était ça ma question.
Alors, avec nous, on a un centre de vaccination, on ne vaccine qu'avec du Pfizer.
Ouais.
On n'a eu aucun retour d'événements indésirables graves sur le centre de vaccination.
Donc c'est ça qui est important.
Zéro.
D'accord, ça c'est vraiment important de le dire. Bien sûr, c'est important de le dire. Mais alors, est-ce qu'il y a eu des retours de choses, non pas graves, mais non pas forcément non plus légères, des choses qui ont été handicapantes pendant quelques heures ou quelques jours?
Alors, effectivement, avoir le bras un peu endolori, on peut considérer que c'est handicapant. Bon, c'est pareil qu'avec tous les autres vaccins. Donc,
C'est vraiment rien.
À part ce genre de choses, des événements vraiment extrêmement bénins, un bras un peu chaud, douloureux pendant quelques jours. Voilà, ça s'est vraiment limité à ça.
Bon, écoutez, merci vraiment, Latifa, d'être aussi précise.
Je vous en prie.
Et merci de votre engagement, évidemment. Il est 13h06. Bonjour à Greg Caranoni.
Bonjour à tous.
Vous avez écouté cet échange dans le journal de Christelle entre la maire, madame la maire de Paimpol, et son ancien maire qui la traitait de cocotte et qui disait ma maîtresse.
J'ai entendu ça, oui.
Il y a quand même des gens qui sont des caricatures, parfois. Convenons-en. Mais qui nous font, je ne sais pas si on doit sourire d'ailleurs ou pas, on se dit c'est une caricature, c'est pas vrai, c'est un jeu, c'est un acteur. Eh bien non, ça existe. On pourra le réécouter tout à l'heure ou pas, parce que ça fait vraiment réagir les auditeurs et je souhaiterais qu'on en parle peut-être davantage.
On pourra sans problème.
Merci, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question qui vous fait réagir depuis le début de l'émission. Faut-il élargir la vaccination? Faut-il permettre à des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans de pouvoir se faire vacciner dès maintenant? Latifa a été la première à intervenir.
Selon les territoires, il faudrait élargir la vaccination.
Un certain nombre de grands centres ont des créneaux de vaccination qui ne sont pas pris. Selon le site Vitmados, plus de 270 000 rendez-vous sont disponibles. Philippe Martin, le président du conseil départemental du Gers, était l'invité de RTL Midi. Hier, seulement 820 doses de Pfizer ont été réservées sur 2000 disponibles au vaccinodrome à Auch.
Si jamais on continue d'avoir des doses qui sont non utilisées ou en tout cas qui ne donnent pas lieu à un rendez-vous, alors il faut ouvrir à toutes les classes d'âge, parce que c'est quand même idiot que sur une semaine, on ait 2000 personnes qui auraient pu être vaccinées avec du Pfizer qui ne le seront pas, sous prétexte qu'effectivement, ils ne rentrent pas dans la classe d'âge.
Et pour Sylvie, sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Il est temps, oui, de permettre à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de se faire vacciner. Beaucoup de jeunes attendent, observe encore Christine. On perd un temps fou avec ces créneaux disponibles, s'énerve Patrick. Et Jacqueline a 68 ans. Tout dépend, oui, des territoires. De mon côté, j'attends toujours d'avoir un rendez-vous pour me faire vacciner. Ce n'est pas aussi simple.
Il y aura d'autres sujets, bien sûr, jusqu'à 14h30. Le Rassemblement National est-il un parti putschiste? Et d'une manière générale, que pensez-vous de la réaction du gouvernement en ce moment sur cette tribune des généraux et sur paroles de Marine Le Pen qui est associée à cette tribune des généraux, puisqu'elle leur a demandé de venir la soutenir. On pourra parler de football également avec PSG qui reçoit Manchester City. Sylvie, bonjour, vous êtes médecin également, Sylvie.
Bonjour, oui, je suis médecin.
Et merci. Donc la question reste la même.
Alors, je vois un peu autour de moi. Alors, je suis spécialiste, donc je ne suis pas médecin généraliste, donc je ne peux pas vacciner mes propres patients, mais je travaille dans un centre de vaccination. Donc, ce que je peux donner de mon témoignage, c'est que nous, on a une liste d'attente dans laquelle on privilégie évidemment les personnes éligibles, et que dès qu'une dose se libère parce qu'un patient n'est pas venu ou parce qu'il est récusé, ou pour une raison ou pour une autre, eh bien, on a notre liste d'attente, on contacte la personne, et ce qui fait que nous n'avons jamais perdu une seule dose. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire un peu partout et qui limiterait probablement le problème des doses dites perdues. Je ne sais pas vraiment s'il y a des doses qui sont jetées quelque part, j'ai peine à y croire. Bon, après, je pense qu'il faudrait probablement... Alors, moi, je vois aussi de mes patientes dont les parents n'arrivent pas à se faire vacciner parce qu'elles ne trouvent pas de doses.
Ah bon?
Moi-même en Normandie, parce qu'il n'y a pas de rendez-vous disponible. Mais non,
il y a des rendez-vous disponibles. C'est étrange parce qu'à Paris, il y en a beaucoup.
Oui, mais tout le monde. Oui, mais ça, c'est des gens qui habitent en province. Mmh. Et autour d'eux, aucune dose. Moi, je suis là en Normandie aujourd'hui parce que je viens voir ma mère. J'ai cherché pour quelqu'un d'autre un rendez-vous dans tous les centres autour de moi, donc Évreux, Verneuil-sur-Avre, enfin, ce n'est pas des petits villages.
Là, on ne peut pas avoir de
grandes villes. Impossible,
de date.
Impossible. Il n'y a aucun
créneau.
Aucun créneau n'est disponible.
Alors, moi, je voudrais qu'on vérifie ce que vous dites, Sylvie. Je voudrais vraiment qu'on vérifie ce que vous dites par Doctolib, parce que vous m'étonnez pour tout dire, mais je ne remets pas forcément en cause votre affirmation, mais je voudrais vraiment le vérifier. Par exemple, vous dites à Évreux, aujourd'hui, il n'y a pas de...
Alors, moi, j'ai regardé... Il y a 24 ou 48 heures,
oui.
J'ai regardé Verneuil-sur-Avre, Évreux, Saint-André-de-l'Eure et une ou deux. Tout était complètement.
Et vous êtes passé par quel site?
Par Doctolib.
Doctolib, écoutez, on va y aller.
C'est comme ça que j'avais fait pour ma mère. Donc, ce n'est pas pour elle, c'est pour une autre personne, mais qui est tout à fait éligible. Et on ne pouvait me donner de rendez-vous nulle part. Et la semaine d'avant, il y a 15 jours, j'avais de nouveau procédé de la même manière pour la même personne. Impossible. Donc, ça
je vais appeler Laurent Tessier, il est en régie. Il m'entend, Laurent, et il est en train déjà d'activer Doctolib. Je vais lui demander, vérification en direct.
Sur les ondes, que je suis une quiche complète en informatique.
Oh non, mais pas attendez, je n'étais pas du tout loin, je vous en prie.
Non, mais c'est
intéressant de le vérifier parce que nous, effectivement, on a le sentiment. Cette émission, c'est la vôtre et vous êtes les éditorialistes de l'émission. Oui. Donc c'est pour ça que c'est intéressant.
Voilà, donc c'est pour ça que la situation que vous décrivez de centre où il y a plein de, en particulier le Stade de France, parce que je pense que c'est surtout ça, ou à Lille la semaine dernière, ou il y a 15 jours, ce n'a pas la réalité de tout le monde. Donc ça veut dire que il y a des gens qui continuent à 75 ans à chercher à se faire vacciner, ou des gens éligibles qui essayent de se faire vacciner et qui ne trouvent pas à côté de chez eux de possibilités. Donc je pense que là, il y a une question d'organisation qui, à mon avis, à prendre en compte bien avant, ouvrir la vaccination très largement, ce qui, j'espère, va arriver, pour toutes les classes d'âge. Parce que c'est vrai que c'est compliqué pour un certain nombre de gens d'avoir des rendez-vous. Après, je pense que peut-être on peut faire comme il y a eu aux États-Unis. Enfin, moi, je vois, j'ai des enfants qui travaillent aux États-Unis. Donc, tout le monde s'est inscrit. Et puis après, on leur a dit, vous serez telle semaine, vous serez telle semaine. Et comme ça, en fonction des doses qui sont disponibles et des rendez-vous qui restent, on peut contacter les gens et comme ça, on n'a pas de trou, vous voyez. Parce que c'est vrai que, par exemple, je pense au Stade de France, peut-être, on a ouvert brusquement une énorme quantité dans un département où le nombre... Je rejoins ce que disait la Tifa, c'est-à-dire que c'est dans un département où il n'y a peut-être pas une énorme proportion de gens qui sont de l'âge éligible. Donc je pense qu'en fonction, alors moi je ne pense pas que ce soit par région, mais en fonction des centres, il faudrait avoir des gens inscrits, et après on les appelle au fur et à mesure des doses disponibles. Et comme ça, on respecterait un peu la priorité des gens plus fragiles ou plus âgés. Et en même temps, on respecterait aussi ceux qui ont besoin de se faire vacciner, qui sinon vont être complètement engloutis sous la masse, donc les gens âgés, pas très agiles sur Doctolib ou les autres sites. Et comme ça, en plus, on perdrait aucune dose et on donnerait aussi aux gens l'impression que ils sont dans le tuyau finalement, parce que à la limite, quand les gens sont inscrits sur une liste d'attente, ils sont presque aussi tranquillisés que s'ils étaient vaccinés, parce que sinon après, c'est un
arrière succès, quoi. Merci Sylvie. Voilà. Alors, il n'y avait pas de rendez-vous hier, me disiez-vous, dans le centre d'Evreux. Laurent Tessier est allé et effectivement, je vous confirme qu'aujourd'hui, il n'y a aucun rendez-vous possible dans le centre d'Evreux pour se faire vacciner.
Où il y a deux centres en plus.
J'ai demandé à Laurent, mais quand est-ce le prochain rendez-vous? Et il n'est même pas donné. On ne dit même pas c'est dans 8 jours ou dans 10 jours, etc. C'est ça qui m'étonne le plus, pour tout vous dire.
C'est dans 15 jours, mais là, il n'y a rien. Donc,
c'est ça qui est étonnant.
Les gens téléphonent, et puis c'est très décourageant, quoi.
Alors, c'est très intéressant parce que prenez votre rendez-vous en ligne. J'ai sous les yeux, lorsqu'on va sur ce site, la réponse qu'on obtient. Donc, prenez votre rendez-vous en ligne, renseignez les informations suivantes. Lieu de consultation, centre vaccinal Evreux, rue Léon Schwarzenberg à Evreux, et changer de lieu. C'est ce qu'on te dit. Donc, c'est agréable.
Quand on change de lieu, c'est plein ailleurs.
Changer de lieu, donc tu ne peux pas aller à Evreux. Et c'est pour ça que l'administration, parfois, c'est un peu rude. Donc, motif de consultation, première injection vaccin Covid Pfizer. Voilà. Et il est dit, aucun rendez-vous n'est disponible pour le moment. Mais de nombreux créneaux vont être mis en ligne dans les jours à venir. Vous pouvez également prendre rendez-vous dans un autre lieu de vaccination.
Voilà, c'est ça. Et si vous faites tous les autres lieux...
C'est ça qui est rigolo, parce que c'est l'administration.
Vous faites tous les autres lieux, vous avez exactement la même réponse. Donc imaginez, c'est très décourageant. Puis comme en plus on ne vous donne pas une date, ça veut dire qu'à la fin ils finissent par renoncer. Parce que voilà, et c'est pour ça qu'il y a des gens éligibles qui ne sont pas vaccinés. Donc je pense qu'il faudrait que Doctolib modifie son logiciel en vous mettant une liste d'attente. Et en vous disant, on vous contactera une semaine avant quand il y aura des doses pour que vous puissiez avoir un rendez-vous un jour où vous pouvez venir. Mais voilà, je pense que c'est surtout ça qu'il faudrait faire, améliorer l'accessibilité plutôt qu'aux gens éligibles, et puis inscrire les gens dans une file d'attente, et comme ça on est sûr qu'on les contacte, et eux ils seraient très rassurés d'être déjà, encore une fois comme je dis, dans le tuyau.
Eh bien merci beaucoup Sylvie.
Dans un tuyau. Merci à vous, au
merci
revoir.
Merci à vous Sylvie, la pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud,
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Figurez-vous que Jean Castex est en train de s'exprimer sur le Covid et sur le terrorisme. C'est étrange, d'ailleurs il s'exprime à 13h en milieu d'après-midi. Le Conseil des ministres était ce matin. Il fait donc une intervention et il vient d'annoncer qu'Emmanuel Macron s'exprimera vendredi sur le front sanitaire, comme on dit. C'est-à-dire qu'il donnera les perspectives du déconfinement. Il nous dira si on va pouvoir aller déjeuner en terrasse ou si le couvre-feu est allongé, etc. On attend ça avec... avec impatience, forcément. A priori, c'est des bonnes nouvelles. Donc, mais à quelle sauce on va être mangé ? Ce couvre-feu, est-ce qu'il va être prolongé ? Est-ce que on pourra dîner le soir ? Je ne le crois guère, hélas. Evelyne est avec nous. Bonjour, Evelyne.
Bonjour, Monsieur Pro.
Et la question du jour, c'est la vaccination. Est-ce qu'il faut l'ouvrir, l'élargir, la vaccination ?
Alors, je veux dire, quand j'ai entendu votre intervention, moi, ça me fait rire. Alors, dans tous les cas, comme vous le savez, je viens de fêter mes 70 ans, je ne me ferai pas vacciner. Je trouve que cette campagne de vaccination, c'est du n'importe quoi, mais vraiment du n'importe quoi. Des doses, pas des doses. Il y en a même qui vont jeter des doses.
Mais il y a quand même 14 millions de gens qui sont vaccinés. Ça, c'est pas n'importe quoi.
Oui,
vous êtes marrante, voilà. Evelyne. Si tout le monde est comme vous, on fait quoi ? On ferme, on reste,
écoutez,
on reste tous enfermés ?
Écoutez, non. Alors, je vais vous dire, dans les, je viens d'ouvrir l'Indépendant, hein, le journal Indépendant. Sur les Pyrénées-Orientales, nous avons 22 personnes en réanimation. 22 personnes, nous sommes 120 000 habitants.
Evelyne, j'entends ce que vous dites.
Voilà,
mais...
donc, non, puis.
Mais votre
vraiment...
solution, c'est quoi ? C'est
non,
ça.
Mais
moi, je vous adore tous. Bien sûr,
écoutez,
j'aime les auditeurs. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait si tout le monde est comme vous ?
Les gens qui veulent se faire vacciner, qu'ils se fassent vacciner.
Oui, mais c'est pas ma question.
La vaccination contre la grippe, elle a jamais été obligatoire. Moi, je me suis jamais fait vacciner contre la grippe.
Ce n'est pas ma question, Evelyne.
Voilà.
Ma question, vous n'y répondez pas.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qu'on fait si tout le monde est comme vous ? Si tout le monde ne veut pas se faire vacciner, on fait comment ?
Bah écoutez, tout le monde n'est pas contagieux quand même. Moi je peux sortir, hein. Tout le monde n'est pas contagieux. Alors ce qui est bizarre, c'est
bon,
que
vous voulez pas répondre à ma question, Evelyne, mais je vous aime quand même.
Tous les jours, on nous parle de comme ça s'appelle d'hospitalisation, des choses comme ça. Bon, déjà dans les hospitalisations et dans les décès, je suis désolée, hein. Comme je vous ai dit il y a quelques jours, mon frère est décédé d'une tumeur au cerveau. Sur son acte de décès, c'est marqué mort du Covid.
Mais vous ne pouvez pas nier une réalité, Evelyne.
Enfin, en tout cas, les résultats sont que M. Michel Simès, qui est quand même votre médecin qui intervient à la radio et tout, sa femme, elle a été vaccinée. Apparemment, elle a des suites secondaires elle est malade, elle n'est pas bien
écoutez,
du tout.
Je ne suis pas au courant du tout. Et alors,
c'est
la première fois que j'entends ça. Et puis, je ne sais pas si c'est. Moi, je me méfie toujours. Comment dire, d'informations sur la santé des uns et des autres, telles que vous les nommez. Donc, il faut être prudent,
écoutez,
vous voyez. Mais vous ne répondez pas vraiment à ma question.
En tout cas, il y a une perte, effectivement, de vaccins. Je trouve ça lamentable.
Qu'est-ce que vous appelez une perte de vaccins ?
On ne trouve pas les personnes pour se faire vacciner au vaccinodrome de Saint-Denis.
Bah évidemment, si tout le monde est comme vous, les gens n'y vont pas. Alors
non,
vous êtes extraordinaire. Vous dites je veux pas me faire vacciner, puis vous regrettez que les gens n'y aillent pas.
Non, je regrette pas du tout. Mais c'est de l'argent perdu, ça c'est sûr. Ça c'est de l'argent perdu.
J'espère que les doses ne sont pas perdues d'ailleurs.
En 2009, le H1N1 nous a quand même coûté 2 milliards d'euros, hein, quand même. Hein. Il y a eu 94
Evelyne,
millions
laissons
de doses.
Le H1N1.
Ce qui m'intéresse,
c'est la solution d'aujourd'hui. La solution d'aujourd'hui, il y a une responsabilité que tout un chacun peut avoir. Je trouve que Bernard Tapie l'a plutôt bien dit dimanche.
J'ai écouté Bernard Tapie.
Il l'a plutôt bien dit, c'est-à-dire que tu te vaccines effectivement pas tant pour toi, puisque un vaccin pour lequel la plupart des gens ne risquent pas grand-chose. Par exemple, moi, si j'ai le Covid, je ne vais pas, statistiquement, je ne vais pas aller en réa et je ne vais pas passer un mauvais moment. Bon, on est d'accord. Donc, à titre personnel, par exemple, je pourrais dire... Je me fais pas vacciner parce que ça m'ennuie, parce que ceci, parce que cela, etc. Parce que si je l'ai, ça sera pas grave, etc. Simplement, je peux le transmettre. Et je peux le transmettre à quelqu'un qui n'a peut-être pas la chance d'avoir la santé que j'ai, parce qu'il a une comorbidité, parce qu'il est plus vieux, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Donc cet aspect-là, il peut peut-être un peu jouer, Evelyne. On peut peut-être être un poil solidaire de l'autre, sans angélisme.
Ouais, mais quand il sera sûr à 100%, puisqu'actuellement les résultats sont que le Pfizer c'est 70% de comme ça s'appelle de résultats, l'autre c'est 65.
Bah, je vous convaincrai pas. J'aurais essayé.
Le jour où on me dit bon, ce vaccin il vous protège à 100% et que effectivement, ceux qui sont vaccinés, dans ce cas-là, pourquoi ils continuent à porter le masque ? Pourquoi pas ? Pourquoi il n'a pas le droit d'aller, je sais pas, au cinéma ? Voilà. Mais vous savez, l'histoire du passeport vaccination, le passeport de vaccination, oui, ça, ils vont faire. Ça, c'est certain. Donc, vraiment, moi, j'ai une fille qui vit en Allemagne. Vraiment, je me fais vacciner, vraiment. Je me ferai vacciner pour aller voir mes petits-enfants en Allemagne. Si vraiment, je ne peux pas y aller du tout.
Bon. Evelyne, donc finalement, c'est vos petits-enfants qui seront plus efficaces que moi. Ce qui est normal d'ailleurs, hein, en même temps. Hein, je ne veux pas me mettre en rivalité avec vos petits-enfants.
Je dis que c'est la seule chose pour vraiment, si je ne peux pas aller voir mes petits-enfants en Allemagne, à moins que ma fille puisse d'Allemagne venir me voir en France. Voilà, cet été, elle avait l'intention de venir, donc on verra bien.
Evelyne, merci. Merci. Il fait beau à Perpignan ?
Ben pas du tout, depuis trois jours. Bon, tant mieux, nous on est contents qu'il y a de l'eau. Nous il pleut, et on est très contents.
Vous connaissez la petite chanson des frères Jacques sur Perpignan ? Quand les gars de Perpignan allaient jouer à Montauban, et que les joueurs de Montauban s'en vont jouer à Perpignan. Vous connaissez pas cette chanson ?
J'ai jamais entendu.
La chanson des frères Jacques de Perpignan ?
Non, j'ai jamais entendu.
Le problème, c'est que...
Vous en connaissez des choses.
Les frères Jacques, je peux vous dire, les compagnons de la chanson, on est... Oui, je pense que c'est passé de mode, les uns et les autres ne connaissent plus. Alors, en revanche, je vais vous faire écouter une chanson qui est encore plus vieille, celle-là, puisqu'on va parler de Paimpol tout à l'heure. Et à Paimpol, vous avez l'ancien maire qui a dit à la nouvelle maire, je te parle comme je veux, ma cocotte, ma maîtresse, non maîtresse, etc. Il l'a un peu chambré. Le maire de Paimpol s'indigne, et on l'a entendu tout à l'heure dans le journal de Christelle Robière. Ah oui,
sur les hommes politiques, on ne doit pas parler comme ça.
Oui, puis même des hommes tout court. Hein, franchement, c'est le MALE, M-A-L-E, piqué dans son orgueil, parce qu'il a perdu sa place et que c'est une femme qui a pris sa place. Franchement.
Non, il n'y a pas de respect.
Les hommes me fatiguent. Mais je voulais vous faire écouter. Vous connaissez la chanson La Paimpolaise ?
Oui, ça, par contre, il me semble que je...
Paimpol et sa falaise, son église et son pardon.
C'est la Paimpolaise. À Paimpol. Donc on en parlera tout à l'heure. Je ne rate jamais l'occasion d'écouter une petite chanson pour apporter un peu de légèreté à nos discussions. Merci, Evelyne.
Merci.
Vous êtes gentille.
Au revoir.
Vous êtes gentille. Et puis on va retrouver la petite chanson Quand les gars de Perpignan sont là jouer à Montauban. Vous connaissez pas cette chanson des frères Jacques ?
Si, je suis en train de la rechercher, justement.
Ah. La pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Quand l'équipe de Perpignan sera jouée à Montauban, ils sont brossés évidemment, quelques filles de Montauban, mais quand l'équipe de Montauban sera jouée à Perpignan.
C'est bien de ressusciter les frères Jacques. Vous connaissiez pas cette chanson ?
Si, je la connaissais.
C'était un génie, c'était des génies les frères Jacques. Monsieur Tessier, on va parler de Marlène Schiappa.
Oui, nous attendons au standard sur cette question. Le Rassemblement National est-il un parti de putschistes ? C'est ce que pense la ministre Marlène Schiappa, invitée hier de RTL Soir avec Thomas Soto. Elle a dénoncé le soutien de Marine Le Pen à une tribune d'anciens militaires publiée dans Valeurs Actuelles. Ces généraux à la retraite dénoncent le délitement de la France.
On voit bien là le vrai visage du Rassemblement National. C'est-à-dire que le Rassemblement National, c'est un parti de putschistes. Qu'une personne qui entend devenir présidente de la République et donc chef des armées méconnaissent et mécomprennent à ce point le sens profond et l'honneur de l'engagement des militaires, ça la disqualifie d'office pour exercer cette fonction-là.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi sur Inter ce matin.
Je trouve que Mme Le Pen, elle a gardé de son père le goût des bruits de bottes. Et c'est très inquiétant.
Pour Olivier, tous ces propos font plutôt une belle campagne de publicité gratuite et efficace au Rassemblement National. Ça tape fort sur le RN, observe Bruno sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole, le gouvernement commence à avoir peur. Mais Marlène Schiappa a raison, lance Virginie, on ne peut pas soutenir cette tribune de généraux à la retraite.
Je vais vous dire mon modeste avis, j'ai l'impression que le gouvernement se trompe complètement. en répondant de cette manière-là, que c'est contre-productif, que ça agace effectivement les électeurs du Front National, parce que les bruits de bottes, je pense pas qu'ils le perçoivent comme ça, les électeurs du Front National, et que ça fait monter au fond Marine Le Pen. Donc, je vous soumets cet avis. Est-ce que vous pensez cela ? Est-ce que vous trouvez que les réactions de Marlène Schiappa ou de Gérald Darmanin sont contre-productives à ce moment-là et cette tribune des généraux ? Donc, nous sommes avec Catherine déjà, peut-être. Bonjour Catherine.
Oui. Bonjour.
Cette tribune cette tribune des militaires et des généraux, oui, qui est très intéressante d'ailleurs, et on voit bien que ça monte depuis 3 jours et c'est intéressant d'écouter et de voir ce phénomène.
Alors, moi, je n'ai pas lu la tribune, je n'en connais que ce que vous en avez lu à la télévision. Mais je pense que Mme Schiappa, effectivement, fait complètement fausse route. Alors, premièrement, pour moi, c'est un détournement d'attention par rapport à ce qui se passe en France actuellement. Parce que cette tribune, pour moi, c'est un électrochoc. Un électrochoc, surtout pour le gouvernement. La parole du RN, je ne suis pas RN, mais je vais peut-être voter RN si ça continue comme ça. Je me tâte, parce que franchement, là, il y a un souci. Avoir une interprétation de putsch sur ce courrier me paraît absolument grotesque. On sent que le gouvernement est aux abois parce que la tribune cible bien là où ça fait mal pour que ça fasse mal. Et ça leur fait très mal. Quand la population de la France, quelqu'un a dit ce matin sur une antenne de télévision, on se demande pourquoi le peuple est si résilient, pourquoi les Français sont résilients. Ben, parce que déjà, ils ont montré les dents à un moment et on a vu qu'on les avait méprisés. Sauf que cette tribune ne peut pas être méprisée parce qu'elle est, elle vient de gens qui ont fait des études, tout simplement, qui ont le grade de général, c'est pas n'importe quoi, et la parole porte. Et dire que ces gens-là sont des putschistes, d'abord, c'est pas du tout le contenu du courrier, et assimiler ça au RN et dire que le RN est un parti putschiste, c'est vraiment un raccourci. C'est vraiment un raccourci.
Mais c'est surtout un raccourci que personne au fond ne croit. C'est ça que je trouve étrange, parce qu'un parti qui fait 25%, évidemment, en France, quoi qu'on pense du Rassemblement National, c'est compliqué ou difficile de dire que c'est un parti putschiste. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le gouvernement, en l'occurrence Madame Schiappa, mais il y avait également Madame Parly, il y avait également Monsieur Darmanin, pourquoi s'attaque-t-il de cette manière-là, au Rassemblement National ? Parce que j'ai l'impression, et c'est la question que je vous pose, que c'est contre-productif.
Tout à fait, c'est contre-productif. Mais je crois que ce gouvernement est tellement méprisant par rapport à la population française qu'il balance n'importe, je dis bien balance, c'est un mot un peu familier, des arguments n'importe comment pour que ça fasse mouche. Mais là, à mon avis, ça ne les sert pas. À force de considérer la population française comme une population inculte, non instruite, ce qu'elle devient, on est capable de manipuler à tel point que je vais dire... je vais pas employer un terme, j'allais dire, on glisse vers du despotisme. C'est-à-dire que l'instruction, le savoir n'appartiennent qu'à certaines personnes qui se permettent de faire de la pédagogie. Or, avec cette tribune, on ne peut pas le dire. Ces gens-là ne sont pas des populistes. Alors, on peut vite fait les assimiler au RN, parce que le RN passe pour un parti populiste. Il faudra encore définir le mot populiste. Mais ces gens-là qui ont fait cette tribune, il y a un écho pour moi, parce que je suis dans la France périphérique. J'ai été éjectée de banlieue, alors que j'y étais très bien dans les années 80. J'ai été éjectée de banlieue et... j'ai l'impression que là, on se moque encore de moi. J'ai l'impression qu'on en remet une couche. C'est-à-dire qu'on nous fait passer certaines idées qu'on prend dans une tribune, qu'on détourne, qu'on interprète mal. en pensant que les gens ne vont pas comprendre ce qu'il
y a. Je pense que les gens y comprennent justement, et c'est ça qui est agaçant. Et dans cette tribune, moi j'invite tout le monde à la lire, je le dis depuis hier, j'invite tout le monde à lire cette tribune. La vérité, c'est que le constat sur le délitement de la France à travers un certain antiracisme, à travers l'islamisme, à travers la haine qui prend le pas sur la fraternité, est-il écrit. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent partager ce constat, et que dans cette tribune, les uns et les autres se moquent au fond du raisonneur, mais sont davantage intéressés par le raisonnement. C'est pas parce que ce sont des militaires qui le disent que c'est intéressant, c'est le constat qu'ils dressent. Et j'ai peur que l'opinion pense que le gouvernement ne partage pas cette analyse. Et ça, effectivement, je pense que ça peut être compliqué. Merci en tout cas, merci. Catherine, merci de votre intervention, et puis vous allez pouvoir donner votre avis sur Marlène Schiappa, mais pas que Marlène Schiappa, parce que manifestement, c'est une communication. Je l'ai dit, Florence Parly, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, qui a dit Marine Le Pen a gardé de son père le goût des bruits de bottes. Vous voyez, c'est quand même... Ça renvoie en clair à... Il y a toute une imagerie derrière cela. J'ai été étonné, pour tout vous dire, que Gérald Darmanin dise cela. Donc à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et je vous rappelle qu'Emmanuel Macron présentera vendredi les perspectives de sortie progressive. C'est le mot progressif qui me fait un peu peur, pour tout vous dire. Des mesures de restriction imposées contre la Covid-19. À un moment, on avait dit de dire d'ailleurs la Covid, et puis c'est revenu le Covid, je ne sais pas pourquoi. C'est Jean Castex qui l'a annoncé à l'issue du Conseil des ministres. Le chef du gouvernement a précisé que cette sortie serait progressive à mesure que la campagne de vaccination se déploie. Cette phrase me fait peur, je vous le dis comme je le pense. Je la répète, serait progressive à mesure que la campagne de vaccination se déploie. Comme on n'est qu'à 14 millions de vaccinés, si l'immunité collective, c'est plus de 50%, au minimum, parce qu'on dit parfois 60 ou 70%, ça voudrait donc dire qu'il faut que nous ayons au minimum 30 ou 40 millions de gens vaccinés. Je rappelle qu'on est à 14. Il est possible que nous ne déjeunions pas à l'intérieur d'un restaurant avant le 1er septembre.
2025.
Mais j'espère me tromper. Bon, on revient sur Marlène Schiappa. On est avec... Non, je vois Gilles. Le fameux Gilles ?
Oh, le fameux tout de suite.
Le Gilles artisan ?
Oh non. Oui, le Gilles artisan.
Le Gilles artisan de Seine-et-Marne.
Ouais, irréductible, petit entrepreneur.
Enfin, mais voilà. Oui, non mais bon. Bonjour Gilles, bonjour Gilles.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs.
Ça va être terrible, là. Je sais que on va passer un bon moment.
Tout de suite. Non, je pense que Marlène Schiappa, quand quelqu'un dit le roi est nu, comme le roi c'est son roi, elle ne peut pas être d'accord. Et puis les autres sont à peu près à l'unisson. Parce que je l'ai lu la tribune, alors j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Il y a beaucoup de gens qui parlent et qui ne l'ont sans doute pas lu. La fin de la tribune ne dit pas « nous serons obligés de faire un coup d'État ». Elle dit « nous risquons de nous retrouver dans l'obligation de nettoyer la merde laissée par d'autres ». C'est pas du tout la même chose.
Alors elle ne dit d'ailleurs pas comme ça, mais vous avez sur le fond raison. Je ne peux pas vous dire autre chose, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a l'interprétation qui est faite et l'instrumentalisation qui est faite ne correspond pas à ce qui est écrit.
Alors maintenant, si vous voulez, pour faire un petit commentaire, la mouvance CG, donc écolo-coco-gaucho, de toute manière, ils ne supportent l'ordre que quand c'est eux qui le font. Tout ce qui va dans le sens de l'ordre. J'ai jamais entendu M. Mélenchon dire « je vais héberger trois migrants » ou « je vais me plaindre auprès de Maduro de la répression auprès des Vénézuéliens ». Non, parce que ça, c'est des potes, ils sont de gauche, donc ils sont bien. Donc la répression de gauche, elle est saine, et la répression de droite, c'est pas bien. Mais en l'occurrence, je trouve que les généraux, ce qu'ils disent, correspond de mon point de vue à ce que pensent beaucoup de Français.
Mais je peux entendre ce que vous dites.
C'est pour ça qu'on en parle tant. C'est pour ça qu'on en parle tant.
Mais il est possible, pour tout vous dire, que cette tribune soit un marqueur du moment. Parce qu'effectivement, les gens ne comprennent pas. Quoi, les gens, il faut toujours se méfier quand on dit cela. Une partie de l'opinion ne comprend pas pourquoi le gouvernement réagit de cette manière-là sur cette tribune, pour la raison que vous venez de dire. C'est-à-dire que beaucoup partagent le constat de ce qui est écrit dans cette tribune.
Si vous voulez, l'exécutif n'est pas dans une position si brillante. Nos élites qu'on nous a tant vantées, on ne peut pas dire qu'elles brillent de mille feux. Donc, en gros, il y a le feu, quoi. Les dirigeants, ils ont les jetons. Et c'est pour ça qu'ils réagissent à l'extrême. Parce qu'en gros, là, les généraux ont mis le doigt sur un problème sur un problème qui ne date pas d'hier. Alors, à la défense du président en cours, je dirais que il n'est pas seul responsable de ce qui se passe, mais comme il est aux affaires, c'est lui qui est responsable. Donc s'il ne fait rien, il est encore plus responsable que les autres.
Vous votez, Gilles ?
Je vote généralement oui.
Et vous votez, vous voulez dire ce que vous votez ou pas ?
Bon, je vote pas pour les extrêmes. Et généralement, j'évite de voter pour un énarque, parce que je sais ce que ça veut dire. J'ai vu Giscard, Chirac, Hollande, etc.
Les bah oui, mais alors vous votez pour personne.
Non, parce qu'il y a
parce que la dernière fois, vous avez la dernière fois au second tour de la présidentielle, vous n'avez pas voté. Alors vous avez
non,
voté
j'ai
blanc.
Non, j'ai pas voté au second tour. J'ai voté au premier tour.
D'accord. Bah merci Gilles de cette franchise et vous étiez bien aujourd'hui.
Bah, non, mais je suis gentil en général.
Non, mais c'est pas gentil, mais parfois vous avez. J'ai le droit de le dire ou pas ? Parce que vous venez régulièrement
parfois,
sur cette antenne.
Parfois j'ai un peu le mort aux dents.
Oui, mais ça, c'est pas très grave. Mais parfois, il y a une analyse parfois qui est un peu. Vous savez, le mot qui fâche. Le mot qu'on ne dit pas comme Voldemort dans Harry Potter. Le mot qu'on ne doit jamais prononcer. Un poil complotiste. Un poil complotiste.
Si vous voulez, alors attendez, moi ça c'est un truc sur lequel vous me chatouillez régulièrement et je vais vous faire une réponse définitive. Considérer le champ des possibles n'est pas faire preuve de complotisme. Et si vous me dites comment personne n'est capable aujourd'hui de causer la mort de gens pour sauver son pouvoir ou ses ressources, je vous dis dans ce cas-là, il faut relire l'histoire parce qu'elle en est pleine. Donc il n'y a pas de raison que les hommes d'aujourd'hui soient différents de ceux d'hier. Le complotisme, c'est quoi ? C'est dire, ah non, ça c'est pas possible. Bah, c'est pas possible jusqu'à ce qu'on ait démontré que c'était pas possible. Il y a des choses pour lesquelles, disons qu'on est... Je pense qu'il n'est pas malsain de se poser des questions, sans parler d'avoir les réponses.
Bien sûr, il faut toujours se poser des questions. Merci Gilles en tout cas, parce que j'aime lorsqu'il y a un débat franc, et pourquoi pas musclé, viril mais correct, comme on dit au foot, et c'est toujours sympathique. Merci Gilles, merci
bonne
beaucoup.
Journée,
je vous propose d'écouter Jean Castex, puisque je vous l'ai dit, Jean Castex intervient aujourd'hui après le Conseil des ministres, et il donne des informations. Écoutons-le, le Premier ministre.
Évidemment, je ne peux... que condamner avec la plus grande fermeté cette initiative qui est contraire à tous nos principes républicains. Et la ministre des Armées engagera à leur endroit les poursuites qu'il convient. Comment des gens, et Madame Le Pen en particulier, qui aspirent à exercer les responsabilités de l'État, peut-elle cautionner une initiative qui n'exclut pas de se retourner contre l'État républicain. Chasser le naturel, il revient au galop.
Bah écoutez, je reste sur mon analyse. Je suis très surpris de cette analyse qui, me semble-t-il, n'est pas dans cette tribune. Et le gouvernement est à l'unisson, manifestement, sur cette tribune. Donc, c'est une stratégie gouvernementale. Est-ce qu'elle est productive ou pas ? Mais ça va être très intéressant de voir ces prochaines heures comment ça se termine, si j'ose dire. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessy toujours.
Je te parle comme je veux, ma cocotte. Oui, maîtresse, non, maîtresse. Ce sont les mots d'un élu d'opposition à la maire socialiste de Paimpol, Fanny Chappé, lors du conseil municipal lundi soir.
J'ai le droit de répondre, maîtresse, ou tu vas encore m'empêcher de parler ?
Franchement, monsieur Martin, vous ne me parlez pas comme ça.
Je te parle comme je veux, ma cocotte.
Non. Parce qu'il y a un règlement intérieur. Vous m'appelez encore une fois maîtresse, je vous demande de sortir du conseil municipal. Je suis madame la maire.
Pardon ?
Ma cocotte, maîtresse, la maire de Paimpol, était l'invitée de RTL Midi à Christelle Robière.
Impolitesse et sexisme, je ne l'ai jamais entendu s'adresser à un homme en lui disant « je te parle comme je veux, mon poulet oui. ». Donc effectivement, oui, je considère que c'est du sexisme. Au-delà d'un clivage politique, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Sinon, on retrouvera toujours une excuse.
Le sexisme en politique s'arrêtera-t-il un jour ? L'élu d'opposition et ancien maire a réagi sur les réseaux sociaux. Je ne suis ni misogyne ni méprisant. Coup de gueule de Jacqueline sur la page Facebook de l'émission. Les femmes sont souvent rabaissées lorsqu'elles dirigent. Mais pour Olivier, on ne peut plus rien dire en France. C'est incroyable, on dit bien « mon coco ». Pour les hommes, qu'en pensez-vous ? 32-10. Et puis un anniversaire. Celui de Jacques Dutronc, 78 ans aujourd'hui. L'occasion d'écouter ses plus grands titres. Ça fait du bien.
Ah, ça c'est bien ça, je savais pas que c'était l'anniversaire de Jacques Dutronc, dites donc.
Anthony Martin, on a parlé dans sa chronique ce matin.
Ah, j'ai pas écouté Anthony Martin, malheureusement, ce matin, formidable. Mais on peut faire une playlist Dutronc, du coup.
Bien sûr, avec plaisir.
Attends, on me dit pas, moi, qu'adore la chanson française.
Il suffit d'écouter Anthony Martin, Pascal.
Bah oui, mais j'ai pas écouté ce matin. François est là sur Marlène Schiappa. Ce qui est extraordinaire maintenant, Marlène Schiappa, mais maintenant c'est Jean Castex. C'est-à-dire que unisson gouvernemental sur cette tribune. Bonjour François.
Bonjour Pascal.
Bonjour, bonjour.
Bon, alors je sens que l'Alali sonne. Donc là, attention, Marine Le Pen a des mauvais jours devant elle. Hein. Bon, c'est. Alors moi j'ai remarqué une chose quand même, Marlène Schiappa, il y a souvent, même quelqu'un a dit dans son entourage qu'elle disait n'importe quoi hein, quand même. Je m'aperçois que bon, tout est bon, hein, on a fait feu de tout bois. Donc là effectivement les putschistes, les grands couteaux, les trucs, c'est quand même assez assez inimaginable quand même. Hein. Ils ont pris quelqu'un effectivement qui sert, bon, qui commence un peu la campagne à leur niveau, mais bon, bon, moi je trouve que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup il y a toutes ces choses, hein. C'est pas le problème, il est là à mon avis. Hein. C'est peut-être le peuple qui a raison, hein, ou qui aura raison avec les événements. Bon, après, hein, je veux dire que c'est pas forcément les gens qui sont au pouvoir. Moi, ça me dérange beaucoup. Enfin, cette personnalité de Marlène Schiappa, je sais pas, je la capte pas très bien. Je sais pas exactement ce qu'elle fait. À chaque fois, faut qu'elle ramène sa fraise, je veux dire ça comme ça, pour dire n'importe quoi. Bon, il y en a plein, hein. Mais je trouve que bon, il y a pas plus de putschistes. Ça veut dire quoi ça? Il y a pas des coups d'État demain. Bon, peut-être que demain il y aura des jours difficiles, mais on n'en est pas là. Donc. Je sais pas, j'ai du mal vraiment à comprendre ce genre de situation. Bon, enfin bon, toujours est-il qu'effectivement, ça fait des vagues. Ah bah là, ils ont trouvé effectivement le moyen un peu de contrecarrer Marine Le Pen à travers les généraux, à travers. Donc on verra les suites. Hein. Bon, est-ce qu'on a déjà eu ça en France? Non. Enfin, je veux dire à ce niveau-là, je pense pas. Hein,
c'est-à-dire, est-ce qu'on a eu déjà ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bah, que des généraux, je sais pas, s'expriment comme ça. J'entendais hier Pascal Perrineau, qui est quand même quelqu'un qui connaît pas mal les choses, disant que quelqu'un qui est à la retraite a le droit de dire une opinion, un militaire. Donc, je sais pas, est-ce qu'il faut bâillonner ces gens-là? Bon, maintenant, pourquoi ils disent ça? Enfin, le problème, il est là. Je crois que c'est quand même parce que les choses sont pas bonnes. Hein. C'est pas non plus du. Je pense qu'effectivement, faut être réaliste. Hein. C'est pas. Il y a beaucoup de choses qui vont mal au niveau de la violence, au niveau des banlieues, tout ça. Je pense que. Ça peut craquer, hein. C'est pas non plus du fantasme. Hein. Donc, si le gouvernement ne fait pas ou fait peu de choses, à mon avis, il fait peu de choses, effectivement, ça ira peut-être un
mais
peu...
Mais moi, j'arrive pas à les comprendre, en fait. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il donne à cette tribune autant de publicité. Je ne comprends pas depuis le départ, donc je reste... Je suis très, très étonné. Vous savez que c'est très, très rare, hein, ce qu'on voit depuis 3 jours, il faut bien décoder ça. Et vous avez Florence Parly qui est intervenue d'abord, Éric Dupond-Moretti, vous avez Agnès Pannier-Runacher, vous avez Gérald Darmanin, vous venez d'avoir Jean Castex, vous avez Éric Dupond-Moretti, tous les poids lourds du gouvernement se prononcent sur cette tribune.
Ouais, c'est
je trouve que c'est assez rare. Assez rare. Donc il y a une explication, ils pensent forcément que pour eux, il faut taper de cette manière-là. Et moi, j'ai le sentiment que c'est contre-productif. Donc, je pose la question aux auditeurs depuis tout à l'heure. On est d'ailleurs avec Sébastien, qui est un ancien militaire. Bonjour Sébastien.
Ah, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous, votre avis. D'abord, vous l'avez lu, cette tribune?
Oui, je l'ai lu encore hier soir, relu.
Et vous en pensez quoi?
Eh ben, je vais vous expliquer comment moi je l'interprète. D'accord? Je suis en retraite depuis, donc laissez-moi me présenter, je suis en retraite depuis 4 ans maintenant, 5 ans, et après 21 ans de service. Et donc je l'ai lu, relu, et mon interprétation, c'est juste un état des lieux. En fait, la communauté des militaires et des anciens militaires, une des choses qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont servi une France qu'ils aiment. Et ils se sont pas servis de la France. Et ça, c'est quand même une chose qui me paraît importante de savoir. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, nos généraux, enfin, ces généraux, avec ces officiers et le millier d'autres militaires qui ont signé cette tribune, ils font juste un état des lieux. Ils font un état des lieux de « voilà ce qui se passe ». Voilà comment, si vous n'agissez pas, ils ne disent pas on va prendre le pouvoir par la force ou non, jamais c'est marqué ça. Si vous n'agissez pas, un jour ou l'autre, vous serez obligé, parce que ça reste quand même une prérogative du président de la République, vous serez obligé d'envoyer les forces armées d'actives dans nos cités, dans notre France, pour rétablir l'ordre, et ça risque de partir en guerre civile. Donc ils implorent le gouvernement d'agir, tout simplement. Mmh. Et je vois pas, moi c'est comme ça que je le conçois. Je sais pas comment vous le voyez, mais moi c'est comme ça que je le conçois.
Bah, écoutez, c'est une analyse en tout cas est possible. Vous êtes un ancien militaire ?
Oui, j'ai fait 21 ans. Mmh.
Et vous étiez dans quel registre, si j'ose dire, dans quelle arme ?
Dans l'armée de terre, dans l'infanterie.
Et vous avez quitté l'armée à regret ?
Non, pas forcément à regret, mais il faut savoir passer à autre chose à un moment donné. Mmh. Et quand on ne sait plus physiquement donner l'exemple aux plus jeunes, il faut savoir partir et puis faire autre chose.
Ben merci Sébastien, merci beaucoup de ce témoignage. Bernard est là également, Bernard qui habite Compiègne, bonjour.
Oui, bonjour. Eh ben écoutez, je suis ravi de pouvoir discuter avec vous. C'est la toute première fois, je vous écoute assez régulièrement et depuis quelques années. Et c'est la première fois que j'ai décidé d'appeler parce que depuis un quart d'heure, 20 minutes, je bois du petit lait.
Pourquoi ça ?
Je bois du petit lait avec les auditeurs que vous avez, en réaction bien évidemment au sujet là, de tous nos ministres et gouvernants qui prennent la parole liés à la tribune que des généraux, anciens généraux, enfin des militaires ont pu faire. Bah, écoutez, je bois du petit lait parce que vous avez des gens très calmes, très posés, très constructifs et qui disent la stricte vérité, mais ils ont peur, nos gouvernants. Eh bien, s'il y a telle peur, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui existe aujourd'hui. Eh bien oui, les gens ont peur, et les gens au quotidien voient ce qui se passe. Des flics qui sont assassinés, des professeurs qui sont assassinés, de la vente de la drogue, des pompiers qui se font, le jour où on va éteindre des feux, se font agresser. Mais c'est terrible. Où va-t-on ? Où va-t-on ? Et je ne vote pas FN, je n'ai jamais voté FN, je ne voterai pas extrême-gauche, je suis quelqu'un de plutôt modéré, pas très politisé, mais voilà, je m'associe à ces personnes. J'ai trouvé Gilles très très bien, Catherine exceptionnelle, et qui dit qu'elle va peut-être pencher vers le Front National maintenant, vers ces élections. Elle fait partie, je pense, des 25-30% de gens qui pensent cette chose-là et qui ne sont pas des gens qui ont des bruits de bottes. On n'est plus dans les années 80.
Bah, c'est ça qui est compliqué. Quand on dit c'est un parti putschiste ou quand on rappelle le bruit de bottes, j'imagine que l'électeur du Rassemblement National, il se sent un peu, insulté, le mot étant un peu fort, mais en tout cas peut-être méprisé. Parce que ça veut dire quoi au fond ? Ça veut dire que vous, électeurs du Front National, vous ne vous rendez pas compte que vous votez pour un parti putschiste. Vous, électeurs du Front National ou du Rassemblement National, ça voudrait dire que vous êtes vous votez pour un parti qui aime les bruits de bottes. Vous voyez, c'est ça le sous-texte. Et il me semble que cette communication, je le répète, est contre-productive. En tout cas, restez avec nous, Bernard, parce que vous avez peut parler et peut développer encore toute votre pensée, si j'ose dire. Olivier Bois vient d'arriver pour le journal de 14h. Greg Caradoni est toujours là. On réécoutera peut-être un peu Jacques Dutronc. Et puis on parlera
plaisir.
De Paimpol.
Vous avez dit Jacques Dutronc, non ?
Non, pourquoi vous dites
ça ? J'ai cru entendre Jacques Dutronc.
Non, c'est alors maintenant, il a pris la confiance, Olivier Bois. Maintenant, il chambre.
Pardon de vous interrompre.
Il chambre, vous avez vu à l'entête. Il a pris la confiance, mais c'est normal parce qu'il est excellent.
On fera le bilan après le flash de 14h.
Fais le bilan.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et 14h01. L'homme qui a pris la confiance, Olivier Bois, pour le flash.
C'est vendredi, Pascal, qu'Emmanuel Macron prendra la parole pour donner ses arbitrages sur le calendrier de déconfinement. Il a évoqué jusque-là une réouverture des terrasses à la mi-mai, puis des réouvertures progressives jusqu'à l'été, probablement territorialisées. On verra donc ce qu'il en est. C'est le Premier ministre Jean Castex qui vient de l'annoncer à l'issue du Conseil des ministres. Il en a profité, d'ailleurs, pour faire un point sur l'évolution de l'épidémie. Je vous propose de l'écouter.
Le nombre de cas quotidiens est passé en moyenne hebdomadaire de 38 000 cas au plus haut de cette troisième vague à 26 200 très précisément sur les 7 derniers jours. Cela veut dire deux choses. Le niveau de circulation reste élevé, mais nous sommes sur une vraie tendance à la baisse, même si cette baisse, je le rappelle, est plus lente qu'en novembre dernier et que son impact sur les hospitalisations ne se traduit encore que très timidement dans l'évolution du nombre de malades en réanimation.
Le Premier ministre qui a fait également un point sur la vaccination. 460 000 personnes vaccinées en une seule journée, par exemple hier. Il précise que d'ici ce soir, 60% des plus de 60 ans en France auront reçu au moins une première injection. Le gouvernement qui a présenté également une nouvelle loi antiterroriste, essentiellement pour entériner et valider des moyens de surveillance élargie, surveillance plus vaste sur Internet ou surveillance également des détenus condamnés pour terrorisme et qui sortent de prison. Deux mots de sport, les organisateurs des JO de Tokyo annoncent que les athlètes seront testés tous les jours pendant la compétition et par ailleurs sur la question de savoir s'il y aura des spectateurs ou non, la décision sera prise en juin. Et puis le PSG bien sûr qui reçoit Manchester City ce soir à 21h, match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions, soirée spéciale RTL Foot à partir de 20h45. Le quintet à l'instant, l'arrivée provisoire, le 6, le 4, le 11, le 7 et l'As. Et puis un mot du temps de demain qui sera sec et ensoleillé sur la moitié nord avec tout de même quelques averses dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce sera plus pluvieux dans le sud-est. Il fera demain matin entre 8 et 12 degrés sur la moitié nord, entre 11 et 14 degrés dans le sud.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Merci Olivier. Bernard, donc vous étiez avec nous en direct de Compiègne et vous voulez peut-être terminer ce que vous disiez sur cette tribune. Vous disiez que vous buviez du petit lait.
Oui, oui, avec les auditeurs qui vous appellent, parce que effectivement, là, nous avons eu affaire à des gens très calmes, très posés, et avec, c'est une stricte vérité. Je voulais juste rappeler, je ne suis pas un électeur du RN, mais comme Catherine, je vais certainement le devenir, non pas pour adhérer, on va dire, à ces anciens bruits de potes, mais à cette problématique. Je pense que nos gouvernants aujourd'hui n'ont juste qu'à se regarder dans une glace. Je crois que c'est Gilles qui disait tout à l'heure, notre président n'est pas le seul responsable, mais il est à la responsabilité aujourd'hui. Ça fait 15 ans que rien n'est fait, rien n'est écouté de la part de 25, 30, 40% de la population. Mmh. C'est ça qui est sidérant. Et aujourd'hui, eh bien, on n'a pas affaire à une prise en compte de la situation. On répond par traduction. Marlène Schiappa, c'est un parti pontif. Notre Premier ministre vient de le dire aussi tout à l'heure que des sanctions seront prises. Je pense que c'est comme quelqu'un qui perd son sang-froid, qui devient très impoli, très incorrect. C'est que là, les arguments sont tellement vrais, tellement posés, tellement calmement dits, eh bien, ça commence à faire peur.
Eh bien, Bernard, ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter Pierre, parce que ça va être intéressant, parce que Pierre, qui habite le Maine-et-Loire, ne pense pas du tout comme cela. Bonjour Pierre.
Bonjour Pascal.
Et que pensez-vous de cette tribune des généraux ?
Bah écoutez, j'en pense que du mal. Moi je suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit et pour tout vous dire, j'en ai même relativement peur parce que c'est un discours de haine qui est sous-jacent. Donc voilà, et la première des choses, et ça personne l'a relevé, c'est que cette tribune elle a été publiée dans Valeurs Actuelles.
Non.
Je vous rappelle que...
Non.
Comment ça non ?
Bah non. Cette tribune a été publiée le 13 avril dans un site qui s'appelle Place d'Armes et elle a été relayée par un journal qui s'appelle Valeurs Actuelles le 21. Mais elle n'a pas été publiée dans Valeurs Actuelles. C'est-à-dire qu'il l'a relayée comme, Valeurs Actuelles peut parfois prendre des informations ici à droite ou à gauche. Manifestement, elle était dans la ligne éditoriale de Valeurs Actuelles. Elle était partagée sans doute par la ligne de Valeurs Actuelles, mais elle n'était pas publiée en premier par Valeurs Actuelles.
Ok, bon, ce que je voulais dire quand même par là, c'est que si elle est partagée par Valeurs Actuelles, c'est pas anodin. Valeurs Actuelles étant un journal d'extrême droite avec des idées qu'on peut défendre et qu'on doit défendre. Ça me paraît évident.
C'est votre avis et eux ne seraient pas d'accord avec vous.
Oui, très bien, mais sauf qu'il faut pas non plus voiler la face. Je vous rappelle le petit reportage qu'ils ont fait sur Daniel Obono. Voilà, ça en dit long sur ce que pensent ces messieurs dames.
C'était donc, pas un reportage, voilà. C'était une fiction écrite. Oui. C'est pour ça que, c'était une fiction écrite par un intervenant extérieur du journal. Pardonnez-moi de rectifier, je suis dans un mauvais rôle sans doute, mais j'apporte de la précision. Donc,
oui,
c'est pas un reportage, c'était une fiction écrite par quelqu'un qui intervient à l'extérieur de Valeurs Sauf Actuelles. C'est, et c'était une erreur, pour tout vous dire, du rédacteur en chef qui n'aurait pas dû laisser passer ce papier.
Oui, mais ça en dit long, c'est ça ce que je veux dire. C'est que ça en dit long sur ce que peuvent penser les gens de Valeurs Actuelles. Après, c'est pas.
Oh, Pierre, on a perdu Pierre. Pierre, alors on va penser.
C'est un appel déguisé.
Voilà.
Pierre ?
Oui ?
Oui, je voudrais pas que... Parce qu'on va penser que je veux pas vous laisser parler, donc ça m'ennuie, on vous entendait mal. Pierre, vous avez D'accord. de nouveau la parole, à vous.
Oui, je disais que cette tribune des généraux, pour moi, c'est un espèce d'appel à la haine... et qui est camouflé, et je pense qu'il y a...
Mais c'est quoi un appel à la haine camouflé ? C'est ça que, en fait, c'est des mots que je ne comprends pas. Où il y a appel à la haine, et on dit, on sort une phrase et on dit, je prends cette phrase-là, et pour moi, c'est un appel à la haine. Moi, je veux bien tout entendre, mais je veux que vous me disiez quelle phrase, par exemple, précisément, pour vous, est un appel à la haine. Ça, ça m'intéresse.
J'ai pas de phrase précise en tête. Le contenu de cette tribune-là...
Bah c'est ennuyeux, convenez-en que c'est ennuyeux que vous n'ayez pas de phrase précise en tête, parce que dans ces cas-là, c'est une perception générale, et vous avez forcément raison pour vous, mais convenez qu'il faut peut-être étayer. Moi, je l'ai sous les yeux, la tribune. Donc, d'accord. Je pourrais, par exemple, vous lire entièrement des passages et vous demander si vous êtes d'accord ou pas.
Eh ben, allons-y.
Bon, ben, on le fait après la publicité. On va jouer à.
Ben non, mais
à là, dire. Eh ben, écoutez, on va jouer à ça si vous le souhaitez. Pourquoi pas. À tout de suite.
Ça peut être intéressant pour tout le monde.
À tout de suite.
Ouais. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Pierre est avec nous, il habite le Maine-et-Loire et il accepte, si j'ose dire, le jeu de haine ou pas haine, puisqu'il trouve que cette tribune des généraux est, pourquoi pas, teintée de racisme et de haine. Alors,
moi, j'ai quelques exemples sous les yeux.
Ah, ben bah, dites-moi alors.
L'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. Mm. Bon, la France est en péril...
Vous n'êtes pas d'accord avec ça ?
Non, absolument pas. Donc ça, il faudra qu'on m'explique.
Oui, mais ça, pardonnez-moi, ça, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais est-ce que vous trouvez que c'est un langage de haine ?
Bah, c'est un langage de haine. Après, ça, tout dépend comment on le lit. Pour certaines personnes, ça veut dire quoi, la France est en péril ? La France est en péril à cause de qui ? C'est ça, c'est ça la vraie question. C'est quoi leur fond de pensée ? C'est qui l'ennemi pour eux quand ils écrivent ça ? On parle de militaires, donc les militaires, quand ils parlent d'ennemis.
Je pense que quand des policiers régulièrement sont attaqués, sont mis, parce qu'ils sont policiers, sont mis dans une voiture, et comme ça s'est passé à Viry-Châtillon, et qu'ils sont attaqués personnellement et qu'on les fait brûler, c'est une manière de remettre les institutions et de remettre la France en jeu. Et c'est en cela que cette France est en péril. C'est comme cela que je le lis. Parce que manifestement, aujourd'hui, vous avez une partie, non pas de la population d'ailleurs, certaines personnes, certaines groupuscules qui remettent en cause nos traditions, nos mœurs, pourquoi pas notre religion. Et ce serait dire le contraire... Ce serait nier la réalité. Alors, c'est quelques personnes, c'est quelques minorités actives, mais voilà. Ça existe.
Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais combattons cette minorité active. Mais
donc la France est en péril à ce moment-là, vous êtes d'accord avec ça ? S'il faut la combattre ?
Non. Je ne dis pas que la France est en péril, je dis qu'effectivement, on parle d'islamisme radical,
bien sûr.
De salafistes et tout bien ça. Sûr. Combattons ces gens-là, ça, il n'y a pas de problème.
Dites la même chose à ce moment-là que la tribune ?
Non, je ne dis pas la même chose, parce que moi, je ne dis pas que la France est en péril.
Parce que vous trouvez que ce n'est pas... Là, vous divergez, vous trouvez que ce n'est pas suffisamment grave.
Ça mérite pas de dire que la France est en péril.
J'entends bien, mais après, mais je vous repose la même question. Vous divergez de l'analyse, mais est-ce que pour vous c'est une phrase de haine ? C'est pour ça que c'est intéressant notre discussion.
Oui, parce que encore une fois, tout dépend comment on prend. Si on lit un peu plus tard.
Oui.
Nous-mêmes, à la retraite, restons des soldats de France. Nous pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays. Ok, pas de problème. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant, et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers.
Mais ça, c'est ce qu'a dit Gérard Collomb. C'est ni plus ni moins que la traduction de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, dit « Depuis des années, j'observe des gens qui sont côte à côte et j'espère ne pas les retrouver face à face ». Il dit la même chose, Gérard Collomb. Simplement, il n'emploie pas le mot de guerre civile.
Ouais, bah si ce que je viens de lire pour vous, c'est pas un discours de haine, bah dites-moi ce que c'est.
Bah pour moi, je vous répète.
On
peut diverger sur l'analyse, on peut dire ça n'existera pas.
Ouais.
Ça n'existera pas. On peut dire il se trompe. On peut dire les fractures dans la société française ne sont pas à ce point. Mais on peut dire comme Gérard Collomb, j'espère que les gens qui sont aujourd'hui côte à côte ne seront pas face à face. C'est pour ça que c'est toujours intéressant, le discours de haine. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant.
Oui, mais ils appellent un peu à ça, si vous voulez.
Non.
C'est ça,
ah non. Ils appellent à rien, là. Cette phrase-là, c'est pas un appel.
Ils appellent à ce qu'il y ait des choses qui soient faites dans la... Comment dirais-je dans la violence ou au moins de manière autoritaire pour mettre fin à ça. Sauf que ça veut mettre entre les lignes, ça veut dire mettre le feu aux poudres.
Non. Quoi ? Alors ça, c'est votre analyse en tout cas et votre interprétation. Mais oui. Je le répète, par contre, si rien n'est entrepris, et d'ailleurs, il demande l'application des lois, hein, bien souvent, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que dans la Constitution, en fait, et on l'entend parfois, je crois qu'en 2005, certains avaient dit qu'il faut que les militaires interviennent en banlieue. Dans la Constitution, les militaires peuvent intervenir, évidemment, sous le contrôle et l'autorité du politique. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui décident d'intervenir tout seuls. Mais dans la Constitution, et ça s'est fait, je crois, en 61, il me semble, c'est état de siège et les militaires interviennent sous l'autorité du politique. Et ce qu'ils disent, c'est que si rien n'est fait, bah, nos camarades militaires vont se retrouver en première ligne sur le terrain. C'est ça qu'ils disent. Oui. Alors après, ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper.
Vous imaginez l'armée française sur le territoire national en train de se battre. Mais pour moi, c'est juste impossible.
Mais pardonnez-moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est quoi la mission Sentinelle, monsieur ? Les militaires, ils sont dans les gares.
Bah, d'accord, mais je veux dire...
Mais vous les voyez parcourir aujourd'hui partout.
C'est d'abord une mission d'intimidation.
Mais ils sont sur le terrain. Mais ils sont sur le terrain, les militaires.
Oui, d'accord, mais ils ne sont pas en train de combattre à tous les coins
mais
de rue.
Vous avez parfaitement raison, ils ne sont pas en train de combattre à tous les coins de rue, vous avez parfaitement raison. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est l'interprétation que vous faites sur laquelle moi je diverge. Vous vous dites que c'est un appel à la haine et c'est un appel à la guerre civile.
Oui, parce que pour moi, sous-jacent à ce texte et sous-jacent à ces idées, il y a un peu du racisme, parce que je pense que les gens qui sont ciblés entre guillemets, ce sont des gens d'origine maghrébine dans leur majorité. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Écoutez, il est écrit ceci, « D'élitement qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but, créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés. Aujourd'hui, certains parlent de racialisme, d'indigénisme et de théorie décoloniale, mais à travers ces termes, c'est la guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques. Ils méprisent notre pays, ses traditions, sa culture, et veulent le voir se dissoudre en lui, arrachant son passé et son histoire. » Ainsi s'en prennent-ils par le biais de statues à d'anciennes gloires militaires et civiles en analysant des propos vieux de plusieurs siècles. Qu'il y ait en France des gens qui parlent de racialisme, d'indigénisme et de théorie décoloniale, c'est un fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Mais, oui,
mais c'est une poignée de personnes.
Ben voilà.
Mais les minorités actives, parfois, elles ont gagné. L'histoire nous raconte qu'elles ont gagné. Et c'est en cela que certains disent ben, on est en péril.
Pascal, je vais vous dire pourquoi elles gagnent, selon vous. C'est parce qu'on parle trop d'elles.
Et en 17 on parlait trop d'elles quand ils sont rentrés dans le palais d'hiver. Il y avait des chaînes infos en 1917 dans le palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Non.
Ouais,
et ils sont restés 80 ans au pouvoir. C'est ouais, ça l'histoire. D'accord. L'histoire, elle est faite par des minorités actives, Pierre.
Oui, bah peut-être, sauf que je pense que ces minorités actives, elles ne sont pas encore en train de mettre la France en péril, comme ils veulent bien le dire. Et cette minorité active, elle a la peau brune, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour ces gens-là, je pense que c'est un vrai malaise. Et moi, ça me dérange. Parce
c'est pas en tout cas écrit dans la chronique, dans la tribune.
C'est pas écrit, mais c'est dissimulé, mais on peut le comprendre comme ça. Pourquoi Marine Le Pen a sauté dessus immédiatement ? Parce que ça va tout à fait.
Parce que vous pensez que 25% des gens qui votent pour Marine Le Pen sont des racistes, sont des fascistes, sont des séditieux, sont des putschistes.
Je pense qu'un grand nombre des électeurs du Front National sont des racistes, oui, ça me paraît évident.
Oui, alors Pierre, d'abord, vous avez peut-être raison, par définition, je ne peux pas vous apporter. Mais si vous pensez ça, je pense effectivement que ça limite forcément le comment dire le j'allais dire le raisonnement, mais ça limite la compréhension du pourquoi du vote du Rassemblement National. Si vous pensez que 25% des gens sont racistes et votent en tout cas pour cette raison. Mais peut-être que vous avez raison, Pierre. Hein, et notre échange de ce point de vue-là, il est intéressant. D'ailleurs, je voulais vous en remercier parce que c'est vous avez moins l'habitude de. Franchement, vous avez moins l'habitude que moi du micro, donc c'est peut-être plus facile pour moi de vous répondre. Et je voulais vraiment vous remercier de cet échange parce qu'il est vraiment comment dire franc et viril et mais correct comme dit l'autre. Et vraiment, c'était passionnant de vous écouter. Je suis sûr que pour les auditeurs, c'est vraiment intéressant parce que. Il y a ce qui est écrit, il y a ce que vous pensez, il y a l'humanisme manifestement qui fait partie de vos valeurs et je le comprends et peut-être que vous interprétez des choses qui n'y sont pas aussi et puis peut-être que moi-même je vois pas les choses dans la réalité. Hein. C'est pour ça que ce dialogue me paraît intéressant, Pierre. Je vous en remercie grandement parce que c'est pas facile. Je trouve que c'est pas facile pour vous pour le coup.
Moi, je juste terminer en disant que le fond de ma pensée de tout ça, c'est que c'est dangereux. C'est très dangereux. Il faut pas aller sur ce terrain-là parce que là, réellement, la guerre civile, on peut l'avoir. Il faut savoir garder raison.
Alors, oui, mais là, je suis pas d'accord avec vous. Parce que là, où ils ont raison, il faut le dire. Parce que faut pas être dans le déni, quoi. C'est ça qui est terrible. Parce que ça fait 30 ou 40 ans qu'on est dans le déni sur certains sujets et ça nous saute au visage. Voilà.
D'accord. Mais pour autant, la France n'est pas en péril. Et il faut arrêter de faire peur aux gens et de faire monter, justement. Parce que, en disant ça, en écrivant ça, on fait peur à une certaine frange de la population. Et cette peur-là, elle va se traduire dans les urnes par un vote Front National.
C'est bien que vous ayez en tout cas le dernier mot. Je préfère que vous l'ayez sur ce sujet. Merci à vous, Pierre. Oui. Merci.
Merci, Pascal. Bonne journée.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il nous reste juste 1 minute 30, c'est un peu court. Philippe, sans doute, vous êtes officier général. Vous avez 1 minute 30, Philippe, bonjour.
Bonjour Pascal. Je voulais simplement dire que je n'avais pas été sollicité par cet appel, que je n'avais pas signé, mais en fait j'ai décidé de le signer parce que je suis effaré par l'hystérie de cette pauvre Madame Parly et par le tohu-bohu des membres du gouvernement. Au lieu de se complaire en criant au loup, ferait mieux justement de faire régner l'ordre et de reconquérir les territoires perdus de la République. Par ailleurs, moi je suis grand-père. Avant d'être général, je suis un grand-père. J'ai 12 petits-enfants et je suis extrêmement inquiet de la France que je vais leur laisser. Et donc c'est la raison pour laquelle je rejoins mes camarades par solidarité. Ce sont des lanceurs d'alerte. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est tout simplement il faut se réveiller. Parce que si on établit l'état de siège et qu'on n'intervient, ça ne sera pas bon. Voilà.
Merci Philippe, vous avez été synthétique et expéditif, j'ai envie de dire. Vous n'aviez qu'une minute trente et on a bien compris le sens de votre analyse. Vraiment, merci beaucoup. Il est 14h23, c'est une émission assez riche. Je vous propose le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Faut-il élargir la vaccination ? Plus de 270 000 créneaux étaient encore disponibles aujourd'hui. Sylvie est médecin généraliste en Normandie. Elle les cherche toujours dans sa région.
Les patientes dont les parents n'arrivent pas à se faire vacciner parce qu'elles ne trouvent pas de dose. Il n'y a pas de rendez-vous disponible. J'ai cherché pour quelqu'un d'autre un rendez-vous dans tous les centres autour de moi, donc Évreux, Verneuil-Gravre. Aucun créneau n'est disponible.
Et allez-y les jeunes, allez vous faire vacciner pour Evelyne. Pour elle, non, pas question.
Je viens de fêter mes 70 ans. Je ne me ferai pas vacciner. Je trouve que cette campagne de vaccination, c'est du n'importe quoi, mais vraiment du n'importe quoi.
Vous aviez envie de réagir aux différentes punchlines du gouvernement après le soutien de Marine Le Pen à la tribune des généraux à la retraite, des anciens militaires qui dénoncent le délitement de la France.
On voit bien là le vrai visage du Rassemblement National. C'est-à-dire que le Rassemblement National, c'est un parti de putschistes.
Première punchline de Marlène Schiappa. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était en forme ce matin.
Je trouve que Madame Le Pen, elle a gardé de son père le goût des bruits de bottes.
Réaction.
Et c'est très inquiétant.
De Catherine au 32-10.
Cette tribune, il y a un écho pour moi parce que je suis dans la France périphérique. J'ai été éjectée de banlieue alors que j'y étais très bien dans les années 80. J'ai l'impression que là, on se moque encore de moi.
Sujet polémique. Donc Gilles nous a appelé au standard.
Le fameux Gilles.
Le fameux, l'éternel Gilles qui avait ses punchlines prêtes à être dégainées.
La mouvance CG, donc écolo, coco, gaucho, de toute manière, ils ne supportent l'ordre que quand c'est eux qui le font. Tout ce qui va dans le sens de l'ordre. J'ai jamais entendu M. Mélenchon dire je vais héberger 3 migrants ou je vais me plaindre auprès de Maduro de la répression auprès des Vénézuéliens. Non, parce que ça, c'est des potes, ils sont de gauche, donc ils sont bien. Donc la répression de gauche, elle est saine et la répression de droite, c'est pas bien.
Et dans l'émission, il est indispensable de se faire plaisir avec de la bonne musique.
Quand les gars de Perpignan allaient jouer à Montauban et que les joueurs de Montauban s'en vont jouer à Perpignan. Vous connaissez pas cette chanson ?
J'ai jamais entendu.
Les équipes de Perpignan vont jouer à Montauban.
Pas mal, pas mal. Pourquoi pas, Mi Pascal ? Quelle est votre envie en ce moment ?
C'est bien de ressusciter les frères Jacques.
Et vous avez raison. Sinon, notre présentateur des Flash, Olivier Bois, dit boy, boy, boy pour les intimes, est en pleine confiance en ce moment. Il rejoint, mesdames, messieurs, la team de Greg Caranoni pour vous chambrer.
On écoutera peut-être un peu Jack Dutronc.
Avec
et puis on parlera
plaisir.
De Paul.
Vous avez dit Jack Dutronc, non?
Non, j'ai, pourquoi vous dites
ah,
ça?
J'ai cru entendre Jack Dutronc.
Non, non, c'est alors maintenant, c'est, il a pris la confiance, hein, Olivier Bois. Maintenant, il chambre.
Pardon de vous interrompre.
Il chambre, vous avez vu à l'entête. Il a pris la confiance.
Oui.
Dans les auditeurs ont la parole, il y a de la musique, mais aussi des jeux.
Le jeu de haine ou pas haine.
On va suivre dans des prochaines émissions, mais surtout de l'amour entre nous.
Je vous adore tous.
Ah, c'est gentil. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Jacques Dutronc a 78 ans. On se quitte avec la chanson qu'on ne peut pas écouter en ce moment avec la règle des 10 km.
Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir.
Vous savez qui a créé cette chanson?
Dites-moi tout.
Jean-Noël et Mireille.
Et Mireille, oui.
Et Jean Sablon la chantait également. Vous vous souvenez de Jean-Noël qui animait 36 chandelles?
Ah non,
il disait,
pas du tout.
Oh, les papas, les tontons, les enfants sont avec nous.
Il parlait un peu comme ça.
Oh, les tontons.
Jean-Noël.
Très belle imitation.
Surnommé Jaboun.
J'aurais pas dit ça sur l'imitation.
Mais vous avez pas connu Jean-Noël ou... Magnifique
ça,
chanson.
Ça nous fait du bien après toutes ces polémiques.
Le train démarre.
Il a un truc, Jacques Dutronc, qui est hyper séduisant. C'est la désinvolture. C'est quelque chose, ça.
Qu'avez-vous de séduisant, vous?
Je sais pas. Mais en tout cas, la désinvolture. On va demander à Flavie Flamand, c'est un truc qui plaît aux filles, la désinvolture.
Ah, ah mince.
Promettez-moi.
Flavie, dans une seconde.
De penser à moi tous les jours.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.